Ce cours, c'est toujours dans la même perspective. Regardez ce que saint Thomas nous dit, qui est l'étude de la grâce en elle-même. Dire la raison propre de la grâce. Donc cette raison propre de la grâce fait que la grâce de justice originelle, la grâce chrétienne sont l'une et l'autre grâce, participation à la nature divine. Participation immédiate à la nature divine. Adam et Ève ont été créés dans l'état de grâce. Le péché a rompu cette alliance. Et le Christ devient pour nous source de grâce. C'est le Christ sauveur. Saint Thomas, l'étude de saint Thomas sur la Seconda Pars, étudie la raison de la grâce, la ratio, gratiae, la grâce prise en elle-même. Ce qu'il y a de commun dans la grâce, ce qui fait que la grâce est grâce. Mais saint Thomas n'a pas développé le mode particulier de la grâce. La grâce nous est donnée par le Christ. Au contraire, la grâce de justice originelle n'était pas donnée par le Christ. Elle était donnée à la nature humaine pour lui permettre d'être en relation directe avec Dieu. Pour avoir une finalité surnaturelle. Le péché a brisé ce que la sagesse de Dieu avait pensé pour l'homme. Une révolution, le premier péché, c'est sûr. Ève voulait faire quelque chose de mieux que le Père, céleste. Elle a été poussée d'orgueil, une très grande véhémence. Et ça a eu une conséquence sur toute la race humaine. Péché originel, nous devons y croire. C'est Ève chassée du paradis terrestre. Et donc, tous ses enfants, toute la descendance d'Ève, directement, ceux qui sont ses enfants, et indirectement, ceux qui sont encore ses enfants, par des intermédiaires. C'est la nature humaine blessée, la nature humaine qui s'est révoltée contre Dieu, qui continue de vivre. Le péché originel est un péché de nature, et non pas personnel. Vous voyez, la distinction de nature-personne devient tout de suite très importante pour essayer de comprendre, d'avoir une certaine intelligibilité du péché originel. Et quand on supprime la différence entre nature et personne, on ne voit plus très bien ce qu'on peut faire. Et c'est à partir de là qu'au fond, les théologiens, ne comprenant plus ce que c'est que la nature, n'ont plus compris du tout ce que c'était que le péché originel. C'est évident que ce n'est pas très intelligible, hein, le péché originel. C'est négatif. Mais le péché originel, toute sa lumière vient du point de vue de la nature. C'est la nature transmise par Ève, la nature humaine transmise par Ève, qui transmet à ses enfants cette rupture à l'égard de Dieu. Pour montrer la force de la nature. Ève a pu se convertir, réparer sa faute, mais elle n'a pas pu réparer l'état dans lequel se trouvait sa nature avant la faute. Vous voyez, c'est très mystérieux ça, mais c'est aussi très intéressant parce que l'homme ne pouvait pas, Ève ne pouvait pas réparer sa faute. Elle pouvait pécher, mais ne pas réparer sa faute. Le péché la conduisait dans un état, d'opposition vis-à-vis de Dieu, dans un état de séparation vis-à-vis de Dieu. Elle pouvait, elle, personnellement, retrouver son lien avec Dieu, mais au point de vue nature, elle transmettait la nature blessée. C'est un mystère, hein ? Dieu a voulu que ce soit comme ça. Ça aurait pu très bien donner à Ève un pouvoir divin qu'elle puisse séparer sa faute. Et au fond, c'est pour montrer la différence très grande entre nature et personne. Et le péché originel nous oblige, si on veut y penser, et on doit y penser, nous oblige à voir que la nature, elle est selon ce que Dieu conçoit de la nature, ce que Dieu veut que soit la nature humaine. Il l'a voulu avec la grâce au point de départ. Mais quand Ève a péché personnellement, parce que Ève était responsable de tout le développement de la nature humaine, son péché a atteint la nature qu'elle transmettrait d'une manière telle que la nature n'était plus la même, elle avait une modalité nouvelle. Et ceci montre avec beaucoup plus de force la distinction entre nature et personne. Parce que Ève s'est convertie. Chassés du paradis terrestre, ils se sont convertis à Adam et Ève. Ève s'est convertie de son péché personnel, et Adam s'est converti de sa trop grande confiance qu'il avait fait à Ève. Et il s'est converti par rapport à cette trop grande confiance. Je lui demandais de rectifier ça, mais il ne pouvait pas avoir une autorité sur l'état de leur nature. Il ne pouvait pas rétablir la nature humaine dans un état de justice. Parce que l'homme ne pouvait pas réparer la faute. La faute contre Dieu, Dieu seul peut la réparer. L'état de fragilité de la nature humaine. Et c'est pour ça que le péché originel est si intéressant à regarder théologiquement. Parce que il nous fait saisir ce que Dieu a voulu pour l'homme, pour les anges. Il n'y a pas une nature angélique pour tous les anges. Chaque ange est une personne avec sa nature. Alors, on distingue, deux nids distinguent. Dans la famille des anges, des différents groupes, mais il n'y a pas une nature commune pour la nature angélique. C'est ailleurs. Et l'homme pouvait, et c'était le propre de l'homme, transmettre la vie à un autre homme. Ce que l'ange ne peut pas. Et c'est le problème de la nature, ça. La finalité de la nature, c'est la fécondité. C'est pour ça que c'est si inscrit dans la nature. C'est la fécondité. Mais la personne humaine peut comprendre que la finalité à l'égard de Dieu peut nous demander d'accepter la virginité par amour pour Dieu. Vous voyez, le dépassement de la personne sur la nature. Et c'est pour ça que, au point de vue personne, vous avez deux finalités. La finalité de l'amour d'amitié et la finalité de la vision de Dieu. Mais Ève ne pouvait pas réparer sa faute, ni Adam ne pouvait pas réparer sa faute. Ni nous-mêmes, nous ne pouvons pas réparer nos fautes. Nous pouvons pécher gravement, nous séparer de Dieu, personnellement. C'est un acte personnel de rupture. Mais nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, nous rétablir en alliance avec Dieu. C'est Dieu qui nous pardonne. Très important à comprendre ça. C'est la situation de la créature, ça. La créature peut personnellement dégringoler. Elle peut personnellement rompre l'alliance avec Dieu, mais elle ne peut pas rétablir l'alliance. Parce que la créature, comme créature, n'a pas ce pouvoir-là. Il semblerait, d'habitude, il semblerait que tout ce que nous pouvons faire négativement, on peut le réparer. Non. La négation descend plus bas que l'affirmation. Alors, il y a donc un problème qui n'est pas développé dans saint Thomas, et que saint Thomas nous laisse le soin de le développer. C'est de voir comment la grâce peut avoir des états, des manières d'être différentes. La grâce en justice originelle, la grâce chrétienne, c'est toujours l'une et l'autre grâce, participation à la nature divine. Mais cette participation a deux modalités différentes. La modalité de la grâce de justice originelle, c'est la perfection de notre nature humaine qui peut alors atteindre Dieu comme fin. C'est à partir de la nature humaine qu'on voit la qualité de la grâce. Tandis que la grâce chrétienne, elle vient du Christ. Donc la source de notre grâce chrétienne est plus parfaite que la source de la grâce juste originelle. Ce n'est pas tout à fait juste de dire ça, puisque la source est la même, c'est Dieu. Mais d'un côté, Dieu tient compte de la nature pour surélever la nature. Et de l'autre côté, Dieu ne tient plus compte de la nature, mais il nous donne son Fils qui va s'incarner pour être le premier transforme dans l'ordre surnaturel. Marie nous fait comprendre la manière différente dont Dieu la sanctifie et Dieu a sanctifié Ève. Il a sanctifié Marie par une grâce chrétienne. Il a sanctifié Ève au point de départ, avant la faute, par une grâce de justice originelle. Il vous faut comparer ces deux états de grâce, celui d'Ève avant le péché, celui de Marie. C'est en comparant ces deux états que vous voyez la différence de qualité, le mode différent de la grâce chrétienne. La grâce chrétienne munit d'une façon plus royale, de cas de le dire, puisque la grâce nous fait roi, de façon plus royale, au Père, à la très sainte Trinité, à Dieu, que ne le fait la grâce de justice originelle. Puisque la grâce de justice originelle passe par la nature humaine. C'est la nature humaine qui est surélevée. Et la mesure de la grâce d'Adam, c'est Dieu, créateur, et Dieu Père, qui non seulement nous donne l'être comme créateur, mais nous donne sa vie, un principe de vie. C'est assez délicat à bien préciser, mais c'est capital de comprendre que le Christ est la mesure de notre grâce, que la grâce du Christ est la mesure de notre grâce. Alors, si vous voulez, pour mieux comprendre, vous pouvez comparer la grâce d'Adam à la grâce du Christ dans son humanité. La grâce du Christ dans son humanité, c'est la grâce du Fils bien-aimé, du Père, assumant la nature humaine. La grâce d'Adam, c'est la grâce venant du Père, transformant sa nature humaine pour qu'il soit fils bien-aimé du Père. Tous les deux sont fils bien-aimés du Père, mais selon deux modalités différentes. La modalité d'Adam, la modalité du Christ. Vous voyez, quand vous comparez la grâce d'Adam à la grâce du Christ, je crois que vous pouvez assez vite comprendre ce qu'il y a d'unique dans la grâce du Christ. Puisque la grâce du Christ, la grâce sanctifiante du Christ, provient de l'union hypostatique. Et donc, d'une source d'amour plus parfaite, plus proche du Père que la grâce de justice originelle. C'est sûr, la grâce d'Adam et d'Ève, c'est la grâce sanctifiante, c'est la grâce participation à la nature, participation formelle à la nature divine, et la grâce du Christ, elle aussi, est participation à la nature divine, mais leur modalité de grâce est différente. Si je ne comprends pas cette modalité, ça prouve que je ne vois pas suffisamment que autre chose est d'être appelé à participer éternellement à la vie de Dieu, comme Adam et Ève, et autre chose et de participer à la vie intime du Père, comme le Fils bien-aimé dans le mystère de l'incarnation. Dans le mystère de l'incarnation, nous le verrons, il y a une intimité beaucoup plus profonde avec le Père, puisque Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Tandis que la grâce de justice originelle faisait Adam fils bien-aimé du Père aussi, mais selon une modalité moins d'amour que la grâce de jeûne, que la grâce d'intimité immédiate entre le Père et nous. Comment pouvons-nous dire ça? Je vois ce que Jésus dit à Nicodème. Et j'aime beaucoup ce passage parce que c'est Dieu, c'est Jésus qui corrige le maître en théologie. C'est Jésus qui nous montre ce qu'il vient apporter de plus. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Celui-ci vint vers Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu en docteur, c'est de la part de Dieu que tu es venu en docteur. Personne, en effet, ne peut faire ces signes que tu fais. » Il y a eu le signe de Cana. Si Dieu n'est pas avec lui, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Jésus regarde le don de la grâce comme une nouvelle naissance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et sa voix, tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient. Ni nous il va, ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Je crois que c'est très net comme Jésus insiste qu'il s'agit d'une naissance. Nicodème répondit et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répondit et lui dit « Tu es docteur en Israël et tu ne connais pas cela. » Grand reproche. Puisque il y avait déjà dans l'Ancien Testament la grâce. En vérité, je te le dis, c'est de ce que nous savons que nous parlons et de ce que nous avons vu que nous étonnons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Si, lorsque je vous dis les choses, voyez. Vous ne croyez pas. Comment croiriez-vous si je vous dis les choses en haut, les choses du ciel? Et nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et de même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme pour eux. Et de même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme pour que tout homme qui croit en lui ait la vie. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique, pour tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est donc très net que Jésus se sert de la naissance pour exprimer la transformation. La naissance est une reprise radicale. Le théologien regarde la grâce comme un accident qui nous est donné, nous-mêmes existant déjà. Et le Christ, lui, nous fait comprendre que le mystère de la grâce, c'est une nouvelle naissance. La naissance, elle se termine à un principe de vie, l'âme. Et quand l'âme est déjà donnée, elle se termine à un autre principe de vie, la grâce. Donc, la vision du théologien de regarder la grâce comme un accident, juste, mais elle n'est pas parfaite. C'est normal. Lorsqu'il s'agit d'une chose, d'une réalité, d'un mystère qui nous dépasse, il faut nécessairement employer deux regards. Le regard de la finalité, c'est de comprendre la grâce comme un principe nouveau de vie. La grâce est un principe nouveau de vie divine, ayant sa propre finalité, qui est la vision béatifique. Tandis que si vous le regardez comme un accident, vous voyez simplement que la grâce est faite pour élever, surélever la nature et lui permettre d'avoir une nouvelle finalité. Je crois que c'est très net, ces deux regards. Le regard du théologien, science, sagesse. Et le regard du théologien regardant directement la parole de Dieu et précisant que lorsqu'il s'agit de ce don nouveau, le point de vue de la finalité seule peut faire vraiment comprendre ce qui est donné. D'un côté, on regarde la forme, la grâce vient déterminer la nature, lui donner une qualité nouvelle. De l'autre côté, on précise que la grâce donne un principe de vie ordonné à la vision béatifique. Je crois que la réflexion sur ce point de vue-là, donc sur la grâce, puisqu'il s'agit de la grâce, est extrêmement significative. D'un côté, on voit la grâce apportant une noblesse nouvelle à la nature, comme un accident divin, merveilleux, transformant la nature, causalité formelle. De l'autre côté, on regarde la grâce comme une source de vie nouvelle, ordonnée à la fin. Vous voyez, les deux aspects sur lesquels la métaphysique vient aider la théologie, vient nous aider à permettre à notre regard théologique d'entrer parfaitement dans la parole de Dieu. Ces deux conceptions de la grâce vont ensemble, c'est pas du tout un aspect nouveau, non. C'est une explicitation, un développement tout à fait nouveau, et quand il s'agit de la grâce, ce qui est très beau, c'est que la parole de Dieu, prise comme une espèce de parole qui veut être une parabole, Dieu se sert de la naissance, naître de nouveau. La naissance se termine à la substance, à l'âme, à un principe. Donc, la grâce est un don qui est comme une nouvelle nature. Donc, je corrige cette première vision, la grâce accident. Je la corrige en voyant que cet accident joue le rôle d'une substance. sens, joue le rôle d'un principe. D'habitude, l'accident n'est pas principe. Et lorsqu'il s'agit de la grâce, cet accident divin, de nature divine, joue le rôle de principe. En nous tenant une capacité nouvelle d'aimer Dieu, une capacité nouvelle d'atteindre Dieu, une fin nouvelle, la finalité de la nature humaine n'atteint pas la finalité nouvelle que me donne la grâce. C'est donc vraiment par la finalité que je découvre ce qu'il y a de tout à fait propre à la grâce. Et que ce que Jésus dit à Nicodème est parfaitement reçu. Vous voyez donc que l'évangile de Jean, la correction que Jésus fait à Nicodème, Jésus la ferait aujourd'hui à beaucoup de théologiens. Tu es maître en théologie et tu ignores ces choses. Tu considères la grâce comme un accident. Non, elle est une nouvelle naissance. Elle se termine à une nouvelle nature, ayant une nouvelle finalité. Je crois que c'est peut-être ce qui nous montre le mieux ce qu'est la grâce, une nouvelle nature, une nouvelle naissance. Et par le fait même, une nouvelle finalité. Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. C'est quand même dit d'une façon très nette. Et c'est curieux. Vous voyez, saint Thomas, comme mentant ce passage, montre bien cela. Donc, c'est très juste de voir que la grâce présuppose la nature et donc s'ajoute comme un accident. Mais attention, quand je me sers de l'accident, pour voir, j'oublie que cet accident a une supériorité d'être que son sujet. La grâce est de nature divine, l'âme est de nature humaine. Et donc cet accident de nature divine a un pouvoir de transformer la nature humaine et de lui donner une nouvelle finalité. Et pour mettre ceci en pleine valeur, il faut se servir de la métaphysique qui nous donne la fin de l'être, ce pourquoi l'être est. Il est en acte. La grâce, vue sous le point de vue de la causalité formelle, la grâce vue du point de vue de la causalité finale. Je crois que c'est très significatif quand nous prenons ce texte. Ça ne veut pas dire que peut dire que la grâce est accident fini. Si je reste devant cette intelligence de la grâce, je ne saisis pas ce pourquoi la grâce est donnée, sa finalité. Je vois donc qu'il y a vraiment deux regards. Me servir de la cause formelle, me servir de la cause finale. Et je crois que dire cela, c'est de la bonne théologie. Puisque je me sers non seulement de la cause formelle, mais je me sers avant tout de la cause finale. La métaphysique sert plus à la parole de Dieu en explicitant la causalité finale que la causalité formelle. Puisque le mystère divin, je l'atteins plus lui-même par la causalité finale que par la causalité formelle. C'est juste de voir que la grâce est un accident, qu'elle est une qualité, qu'elle vient donner à mon âme une noblesse toute nouvelle. C'est très juste. Mais la grâce, avant tout, me donne une nouvelle finalité. C'est cela que je dois voir en premier lieu. Nous essaierons de voir toute la différence que nous pouvons exploiter par le point de vue de la causalité finale. Je voulais en premier lieu vous montrer cet exemple, parce que ça vous fait comprendre que la théologie, ne voyant pas le point de vue de la causalité finale, s'appauvrit et risque alors de ne pas saisir avec autant d'acuité le mystère de la parole de Dieu. Et quand on voit ça, et qu'on a, vous ne l'avez pas, puisque c'était avant que vous puissiez le vivre, la querelle terrible qu'il y a eu en France entre jésuites et dominicains à propos de la grâce et de la nature. On avait le dominicain qui prenait la cause formelle, il était farouche là-dessus. Le jésuite prenait la cause finale. Le tort de l'un et de l'autre, c'est qu'il prenait cause formelle seule, cause finale seule. Ils séparaient. Alors que cause formelle, cause finale, regardent le même mystère sous deux aspects différents, mais c'est le même mystère.